Et c'est donc Mathieu Laurent pour le journal de la rédaction. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Du temps au temps, Bruxelles offre une rallonge à Londres pour négocier un Brexit au mieux, sans trop de casse politique et économique, explication dans un instant de Johanna Hochstein. Le prélèvement de l'impôt à la source coûte cher à l'équipe Macron, hésitation, démenti, déclaration contradictoire, où est le problème? Question que nous poserons à notre invité Martial Foucault, directeur du CEVIPOF. Le chef de la diplomatie française, Yves Le Drian, dit craindre l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien qui prépare un assaut massif sur l'enclave rebelle d'Idlib. Nous nous rendrons également à Moscou. Seulement quelques milliers de militants communistes ont défilé contre la réforme des retraites revue et corrigée par Vladimir Poutine. Ce sera une correspondance de Claude Brouillot. Un nouveau calendrier de négociations et de vives tensions chez les conservateurs britanniques. Ce sont là les deux inflexions du jour dans la perspective d'un Brexit que les uns souhaitent sans concession et que les autres envisagent plus souple. Theresa May emprunte à ses deux dominantes. Aucune concession contraire à l'intérêt national, ni à Bruxelles, ni aux partisans d'un Brexit dur. Dans les colonnes du Sunday Telegraph, elle répète ce qu'elle a toujours préconisé, y compris de garder une relation étroite commerciale avec l'Union européenne après le Brexit, au risque de mettre du vent dans les voiles de ses détracteurs chez les conservateurs. Le négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit, Michel Barnier, qui s'exprime lui dans les colonnes de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, offre un peu de temps à Londres jusqu'à la mi-novembre. Bruxelles, Johanna Hochstein.
Avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue pour le 29 mars 2019, les parlements européens et britanniques doivent ratifier l'accord de divorce, une ratification qui peut se faire en 3 mois, ce qui permettrait aux négociateurs de poursuivre leurs discussions au-delà du Conseil européen du 18 octobre, la date butoir fixée depuis le début. Si nous avons besoin d'un peu plus de temps, nous aurions cette flexibilité, a rappelé Michel Barnier, le négociateur européen sur le Brexit. En fait, techniquement, les discussions pourraient même se prolonger jusqu'au mois de décembre. Les négociateurs ont donc désormais 4 mois pour trouver un accord sur la question irlandaise notamment. Londres et Bruxelles se sont déjà mis d'accord sur un texte préliminaire. Il exclut tout rétablissement d'une frontière physique sur l'île d'Irlande. Mais la première ministre britannique ne cesse de répéter que le Royaume-Uni sortira du marché unique à l'occasion du Brexit, ce qui implique le retour de contrôle douanier entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Et puis il y a aussi des dossiers comme la protection des produits du terroir et le rôle de la Cour de justice de Luxembourg qui ne sont toujours pas tranchés non plus.
Toujours pas tranchée non plus cette question du prélèvement de l'impôt français, prélèvement à la source, une réforme censée entrer en vigueur en janvier prochain, une réforme qui aura coûté 200 millions d'euros ces 3 dernières années, cette réforme qui a semé le doute jusque sous les lambris de l'Élysée. Pour tenter de comprendre ce qui pourrait être à l'origine de ce qui s'apparente à des hésitations, des tergiversations politiques justifiées de temps à autre par des difficultés techniques, nous sommes en ligne comme convenu avec Martial Foucault. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du CEVIPOF, le centre de recherche de sciences politiques de Sciences Po. Plusieurs ministres, monsieur Foucault, sont montés au front aujourd'hui pour dire tout va bien, tout est prêt, il est normal que le président de la République demande d'ultimes vérifications. Alors, c'est technique, psychologique, politique, comment vous recevez-vous ces postures?
Je dirais qu'on assiste depuis quelques jours à l'émergence au fond d'interrogations et de la part de l'exécutif, du président. Habituellement, lorsqu'une réforme est engagée, le président laisse les ministres concernés par le dossier conduire la réforme. Or là, les interrogations d'Emmanuel Macron sont plus insistantes que pour d'autres réformes. Et au fond, je ne crois pas qu'il s'agisse seulement de questions techniques. Le responsable de Bercy a indiqué que les services travaillaient depuis de longs mois et que le prélèvement à la source pouvait se mettre en place dès le 1er janvier prochain. Et on entend cette petite musique sur les effets psychologiques qui seraient aujourd'hui au cœur des préoccupations et des interrogations pour suspendre la réforme. Alors effectivement, d'un point de vue psychologique, c'est vrai que pour les Français, au mois de janvier, ils verront leur fiche de salaire, pour ceux qui acquittent aujourd'hui l'impôt sur le revenu, diminuer du montant correspondant aujourd'hui à une forme de mensualisation. Or, ça arrive dans un contexte très particulier où un certain nombre de réformes engagées par le gouvernement actuel ne se transforme pas, en tout cas en termes de gains de pouvoir d'achat. Et donc, il peut y avoir un télescopage entre à la fois de façon faciale sur un bulletin de paie, une diminution correspondant à l'acquittement de l'impôt, mais aussi finalement une baisse du pouvoir d'achat. Et ce point me semble être certainement au cœur aujourd'hui des réflexions de l'exécutif qui pourrait suspendre ou voire reporter cette réforme.
Je vous propose d'écouter un extrait d'une voix avisée, Christian Eckert, secrétaire d'État au budget des comptes publics entre 2014 et 2017. Il est même en quelque sorte l'un des précurseurs de cette réforme. Il était l'invité d'Olivia Ferrandi sur France Info. Il connaît bien Bercy. Je vous propose de l'écouter.
Si Emmanuel Macron, qui connaît parfaitement ce problème, attend quelques semaines avant la mise en œuvre, alors que son ministre écrit à tout le monde, c'est pas anodin. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que ce gouvernement revient sur une décision du Parlement, une décision qu'il a lui-même approuvée, pour des raisons qui m'échappent. Est-ce que c'est le MEDEF? Est-ce qu'on veut absolument que l'opinion parle d'autre chose que d'autres problèmes qui ont secoué ce gouvernement? Je n'en sais rien, je n'ose pas l'imaginer.
Voilà, Christian Eckert. Alors je reviens vers vous, Martial Foucault. Le gouvernement pourrait renoncer, c'est un aspect de la question, mais surtout, est-ce le MEDEF? Vous m'entendez, Martial Foucault?
Oui, je vous entends. Non, mais ce que soulève Christian Eckert est juste. Au fond, si on considère que tous les services sont prêts techniquement pour la mise en place de cette réforme, on peut s'interroger sur quels seraient les opposants aujourd'hui qui auraient convaincu Emmanuel Macron de suspendre, voire de reporter, et pourquoi pas enterrer cette réforme. Le MEDEF a clairement indiqué depuis l'automne dernier que cette réforme, le prélèvement à la source, n'était pas une priorité et qu'il fallait prendre plusieurs années pour s'assurer de ne pas transformer les entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises, en collecteurs d'impôts. Donc aujourd'hui, peut-être que cette voie a fait mouche et Emmanuel Macron se rangerait derrière, comprendrait les motifs d'insatisfaction des opposants au prélèvement à la source.
Alors quel autre groupe d'intérêt que le MEDEF pour intervenir sur ce dossier précis?
Bon, on a aussi, je dirais d'ailleurs, le prélèvement à la source. Il y a un débat technique sur la fiscalité. Est-ce que c'est pas le moment, avec le prélèvement à la source, de remettre en place ce que dans l'ancien gouvernement et sous la présidence de François Hollande, certains avaient tenté de convaincre François Hollande d'une fusion entre l'impôt sur le revenu, la CSG, mais on rentre dans des éléments très techniques. Donc il y a un certain nombre d'économistes qui sont favorables à cette fusion. Donc au-delà des, j'allais dire, du patronat, il y a aussi un certain nombre de personnes qui souhaiteraient que ce gouvernement engage une réforme de la fiscalité plus progressive pour pouvoir toucher plus fortement les hauts revenus du travail, mais aussi du patrimoine.
D'un dernier mot, Martial Foucault, l'architecte du programme économique du candidat Emmanuel Macron, Jean Pisani-Ferry, dit il faut y aller sur les prélèvements à la source, mais il dit surtout il va falloir préparer maintenant des réformes de manière plus ouverte. C'est de la méthode Macron qui est en question, au fond?
Non, ce qui peut être très compliqué pour Emmanuel Macron, s'il devait y avoir un report ou un enterrement de cette réforme, et c'est le mot réforme précisément qui est souvent employé, c'est que pour la première fois, Emmanuel Macron ne serait plus le réformateur qu'il a souhaité être et qu'il a engagé. Il a engagé une majorité parlementaire derrière le mot réforme, et ce blocage pourrait être effectivement politiquement et électoralement, on rentre dans une année électorale de 2019 avec les élections européennes, certainement un mauvais coup porté à son action publique.
Merci à vous, merci Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, d'avoir accepté notre invitation. Il est encore question de réforme. C'est une réforme, cette fois, qui est examinée par le Parlement russe. Le texte ne peut donc être édulcoré. Et pourtant, des milliers de Russes ont défilé, entre autres, à Saint-Pétersbourg et à Moscou, à l'appel du Parti communiste, contre la réforme des retraites, bien qu'il soit question d'une réforme amendée, assouplie par Vladimir Poutine. Mobilisation à la baisse, si on a à l'esprit la fronde de la fin du mois de juillet. Les organisateurs avaient alors compté 100 000 manifestants. Claude Brouillot nous appelle de Moscou.
Les préposés au comptage des manifestants ont passé un début d'après-midi tranquille sur la perspective Sakharov, l'avenue située à 2 kilomètres du Kremlin, dont l'accès avait été autorisé en guise de lieu de manifestation aux militants du Parti communiste russe, avait été officiellement limité à 15 000 personnes. En réalité, ils étaient à peine la moitié à avoir répondu à l'appel de leur leader, Gennady Tsyuganov, pour l'entendre fustiger encore cette réforme des retraites qui réduit le temps à partir duquel les travailleuses et les travailleurs russes peuvent profiter de leur maigre pension. L'argument principal des communistes a perdu de son impact depuis que Vladimir Poutine a annoncé vouloir réduire de 3 ans à 60 ans au lieu de 63 dans la réforme initiale l'âge légal du départ à la retraite pour les femmes russes. depuis que le président russe a également annoncé la hausse de près de 10% en moyenne par an des pensions pendant près de 6 ans. Pas davantage de succès pour le parti d'opposition Russie Juste, qui a réuni tout au plus 1500 manifestants. Le dernier soubresaut vraisemblable causé par la réforme devrait avoir lieu dimanche prochain à l'appel d'Alexeï Navalny, principal opposant Vladimir Poutine, qui, bien que condamné à une nouvelle période de détention administrative de 30 jours, a décidé de maintenir son appel à manifester contre la réforme des retraites dimanche prochain, en plein premier tour des élections municipales.
Aux obsèques d'Alexander Sakharchenko, Vladislav Sourkov, proche conseiller de Vladimir Poutine, déclare au nom de la République autoproclamée de Donetsk que le dirigeant tué vendredi dernier dans un café soufflé par l'explosion d'une bombe est un frère et un vrai héros. Fin de citation. Vendredi prochain, les dirigeants russes, iraniens et turcs se réuniront à Astana, capitale du Kazakhstan, pour évoquer la guerre en Syrie et, plus particulièrement, l'imminence d'un assaut massif des forces pro-régime sur Idlib, dans le nord-ouest du pays. Idlib, enclave dite rebelle, que Damas pourrait bombarder en utilisant des armes chimiques. C'est ce qui inquiète le ministre français des Affaires étrangères. Yves Le Drian était l'invité d'Ali Badou sur France Inter.
Il y a aussi un risque là d'utilisation à nouveau de l'arme chimique. Ce n'est pas avéré, mais ça peut être une tentation. Et quand je vois, dans les déclarations des uns et des autres, les propos qui sont tenus sur une telle hypothèse, je dis que le risque existe de nouveau. Il y a déjà eu un précédent, et s'il y a utilisation de l'arme chimique avérée et à usage létal, la réaction sera la même qu'auparavant. Il se trouve que ce que l'on appelle le trio d'Astana, c'est-à-dire la Russie, la Turquie et l'Iran, vont se réunir dans quelques jours. J'espère qu'ils trouveront entre eux les moyens d'éviter ce désastre. Et il faut que les acteurs qui ont du poids, je pense en particulier au président Poutine, puissent agir avec force pour permettre à ce processus de s'initier. En tout cas, la France continuera à jouer ce jeu-là, qui est le jeu de sa responsabilité, puisque nous sommes membres du Conseil de sécurité et que cette question-là va sûrement être posée dans les semaines qui viennent au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale des Nations unies.
En Irak, la colère intacte des habitants de Bassora et de ses environs, aux abois et privés de toute redistribution de la rente pétrolière. Des centaines d'entre eux bloquent différents points stratégiques comme des routes et artères qui mènent à des gisements pétrolifères exploités par des multinationales britanniques, américaines et chinoises. Depuis 3 semaines, la province de Bassora est en proie à une crise sanitaire sans précédent. Près de 20 000 personnes ont été hospitalisées pour des intoxications après avoir bu de l'eau puisée dans le châtel arabe. Des manifestations contre l'augmentation du coût de la vie à Aden, capitale du Yémen, pays ravagé par la guerre. Depuis plus d'1 an, le gouvernement est incapable de payer les salaires et la monnaie, le rial, a perdu plus des 2/3 de sa valeur par rapport au dollar depuis 2015. 2015, date à laquelle l'Arabie Saoudite et ses alliés sont intervenus contre les rebelles houthis soutenus par l'Iran. Quelques mots de la météo pour refermer cette édition. Le temps de demain lundi, temps notamment nuageux du nord-est au nord, ensoleillé au sud. Température minimale entre 10 et 15 degrés en général, parfois un peu plus fraîche du sud-ouest au massif central, 14 à 20 degrés près de la Méditerranée. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau